Alors bonjour, dans le nouveau podcast de La Vie Agricole Parlons Ferme, nous recevons comme premier invité de cette nouvelle saison Marc-Olivier Fortin. Marc-Olivier Fortin, on t'a lu sur notre site La Vie Agricole récemment parce que tu étais juste avant les élections américaines dans le Wisconsin et c'est en partie pour ça qu'on veut te parler aujourd'hui. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour à toi Yannick.
Bonjour. Puis Marc-Olivier, avant qu'on revienne sur ton parcours aux États-Unis dans le Wisconsin, ta rencontre avec les producteurs laitiers, peut-être situe-nous un petit peu. Toi, tu étais aussi chroniqueur à la radio, tu as aussi fait un parcours politique comme VP d'un parti politique.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai été impliqué en politique depuis 2008, qui était l'élection fédérale où le gouvernement Harper a gagné. J'ai été impliqué avec les conservateurs depuis ce temps-là. Dans les fonctions que j'ai occupées, j'ai été sur le conseil d'administration du Parti conservateur de 2011 à 2018 et vice-président du parti de 2016 à 2018. Puis ensuite de ça, j'ai été adjoint principal puis directeur de bureau pour le député fédéral de Chicoutimi-Lafleur, Richard Martel. Ce qui m'a mené aussi à mener une campagne au Québec. J'étais directeur de campagne pour le Québec durant l'élection de Erin O'Toole au moment où Richard Martel était lieutenant du Québec. Puis après ça, ben j'ai pris un peu ma retraite de la politique, mais je garde un pied dedans avec mes chroniques radio et différentes interventions.
Oui, c'est ça, parce que tu fais quelques chroniques radio, notamment sur les radios du Saguenay, c'est ça?
Oui, ben c'est là que j'habite maintenant. Avant, j'étais à Montréal. J'ai fait mes études à Montréal. J'ai travaillé, entre autres, pour le CN pendant pratiquement 4 ans. Mais écoutez, les amours m'ont ramené au Saguenay, ma région maternelle du côté de ma mère. Puis je suis ici maintenant depuis 2017, une région qu'on connaît évidemment pour beaucoup de produits, dont l'agriculture. Fait que c'est une raison, c'est des enjeux que je connais super bien. Là.
Justement, parlons d'agriculture. Puis dans ce podcast de Parlons Ferme, on aime parler franchement des choses. Pour dire tout à fait vrai, nous, on s'est rencontrés récemment, en fait, par l'intermédiaire de Luc Boivin, qui te connaît bien. Ben oui. Et en fait, Luc m'a dit, Marc-Olivier s'en va dans le Wisconsin, rencontrer différentes personnes avant les élections de Trump. En fait, et, Wisconsin, pour moi, ça sonnait terre laitière. Et en t'a demandé de faire un petit
c'est leur devise.
Oui, c'est leur devise d'ailleurs, oui, sur leur immatriculation. Et on voulait que tu nous fasses un peu un topo. Donc, tu as fait ce topo-là, en fait, en nous expliquant un petit peu quel était. Puis là, j'aimerais ça que tu expliques aux auditeurs, c'était quoi ton constat quand tu as parlé aux producteurs laitiers? Est-ce qu'ils étaient vraiment tous pro-Trump et pourquoi?
Ben, en fait, d'entrée de jeu, là, quand tu arrives au Wisconsin puis tu t'en vas en milieu rural, il y avait beaucoup plus d'affichage de Trump qu'Harris. En fait, ça se comparait pratiquement pas. Là. Puis c'était pas juste jamais une pancarte. T'avais des affichages plus créatifs les uns que les autres. Je me rappelle, entre autres, t'avais une ferme. Là, je pense qu'à chaque 10 mètres, t'avais un énorme drapeau de Trump. Puis ça allait sur 200-300 mètres. C'était assez impressionnant. Mais c'était de même partout. T'avais beaucoup d'affichages comme ça. J'ai eu la chance de parler à quelques producteurs. Par contre, quand j'ai parlé à ces producteurs-là, ils étaient plus nuancés. T'en avais que, l'inflation, c'était beaucoup un irritant pour eux à cause du prix des entrants. Toutes les matières qu'ils consomment afin de créer leurs produits, les prix avaient augmenté. Mm-hmm. Mais t'en avais qui étaient plus nuancés, qui disaient oui, en effet, il y a de l'inflation, mais tu sais, il faut comprendre aussi que les dépenses étaient aussi élevées avec Trump pendant qu'il était en administration. D'autres disaient que la réglementation était moins importante avec Trump. Il y en a un autre qui me dit qu'il trouvait que l'administration Harris n'en faisait pas assez pour régler les litiges commerciaux. Présentement. Donc, c'est des choses qui sont revenues. Il y a un plus petit, là, on va dire plus petit agriculteur, mais pour nous, c'est quand même énorme. Là. Le gars avait 180 vaches Holstein. Mm-hmm. Puis il me disait que lui, une affaire qui lui faisait peur avec l'administration Harris, c'était la taxe sur l'héritage qui allait augmenter. Puis pour lui, c'était une ferme familiale. C'était inconcevable. Fait que ça variait. T'en avais un qui était sur le conseil d'administration de la plus grande représentation là, des agriculteurs au Wisconsin, là, le Wisconsin Farm Bureau. Lui, il était là-dessus, il était plus nuancé. Puis l'association avait pas appuyé quelqu'un officiellement, mais tu voyais pareil, puis je déterminais là, à la fin de la conversation avec lui que même s'il était, on va dire, indécis, dans l'urne, il allait pencher pour Trump.
Alors, on sait que dans le Wisconsin, c'est eux qui étaient les moteurs des brèches de la gestion de l'œuf en 2017. Est-ce que tu as senti sur place que ça faisait partie encore d'une ambition que les producteurs laitiers du Wisconsin avaient, que si Trump revenait au pouvoir, ils allaient essayer de casser la gestion de l'œuf?
Je pense, écoute, j'ai pas senti ça. Beaucoup d'entre eux, ben, ils m'ont dit qu'ils se sont retournés vers d'autres marchés. Ils me parlaient entre autres de l'Asie ou du Mexique, qui était rendu pour eux un marché important, le Mexique. Mais c'est sûr qu'ils m'ont tout dit, par contre, qu'ils trouvaient que la gestion de l'œuf était un mécanisme qui était déloyal à leurs yeux, puis que c'est le marché qui devrait décider. Eux autres, ils ont un système capitaliste assez fort. Ils disaient que c'était au marché de décider quelle ferme s'en sort, laquelle s'en sort pas, puis qu'ils ne trouvaient pas que le système en ce moment au Québec était juste. Mais outre ça, ils m'ont dit, tu sais, bien qu'on n'est pas satisfait de tout ça, on a trouvé d'autres marchés, on est allé ailleurs, puis la situation présentement nous satisfait. Il n'y en a aucun qui m'ont dit « j'ai hâte que Trump arrive ». Pour renégocier, pour éventuellement m'en aller au Canada.
Ben, et justement, puisque Trump est dans une phase très, très protectionniste, encore plus qu'en 2017, là, je vais faire appel un petit peu à ton flair politicien. Est-ce qu'il y aurait une logique, alors que Trump veut faire une protection maximale aux États-Unis, qu'il veuille ouvrir le marché du lait au Canada? Est-ce que ce n'est pas un petit peu antinomique?
Ben non, mais parce qu'en fait, il vise une dominance. Puis faut comprendre la philosophie de Trump. Oui, il était protectionniste, mais il vise une dominance. Puis là, je vais faire un parallèle avec le milieu de l'énergie. Non seulement ils veulent produire domestiquement pour s'autosuffire, mais ils veulent produire assez pour s'autosuffire et exporter ailleurs. Et c'est ça la philosophie. Trump, America first, donc l'Amérique d'abord. C'est d'être autodépendant, mais aussi de dominer sur les marchés. Alors que quand même qu'on est protectionniste et qu'on protège les producteurs à l'intérieur, on veut quand même qu'ils réussissent et qu'ils produisent non seulement pour le marché domestique, mais aussi à l'international. Et puis il va les supporter en ce sens.
Puis encore, sur ton flair politique, le Canada, tu le sais, actuellement est en train de pousser un projet de loi, le Bill C-282, pour protéger la gestion de l'œuf, pour qu'on ne puisse pas y revenir dans le cadre d'un nouveau conflit avec les Américains sur ce sujet-là. Est-ce que tu vois ça comme quand même quelque chose d'utile, de protecteur, ou comme un flag qui fait juste rappeler aux Américains que justement on a la gestion de l'œuf?
Ben, je pense que c'est un projet de loi. Je comprends ce que le projet de loi veut faire, là, puis c'est très clair, on veut protéger la gestion de l'œuf, mais ça, c'est de la théorie, puis quand tu arrives en pratique, c'est une autre chose. C'est comme si tu arrivais à une table de poker, là, puis tu dévoiles déjà une carte sur deux. Là. C'est-à-dire que tu arrives à la table de négo, puis tu sais déjà que la gestion de l'œuf est hors de portée pour n'importe quel autre pays qui négocie avec toi. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se tourner vers d'autres industries qui vont aussi être difficiles pour le Canada. Fait qu'on enlève des cartes de notre jeu. Puis après ça, la négociation est vraiment restreinte sur un spectre qui est beaucoup plus fermé. Puis les États-Unis vont être très agressifs. J'ai un background en économie, puis en théorie de jeu, là, on appelle ça, il y a une stratégie qui s'appelle tit for tat. C'est-à-dire que si, exemple, tu mets des barrières tarifaires sur le lait, ben moi, je vais le faire également. Mais les États-Unis peuvent aller plus loin et jouer un jeu qu'on appelle tit for two tat. C'est-à-dire, mettons, on met des barrières tarifaires de 10%, ben les États-Unis vont en mettre de 20%. Puis, tu sais, ils vont doubler et ils vont être beaucoup plus agressifs, ce qui va nous mettre dans une situation qui est inconfortable. Il faut se rappeler que le Canada est un pays exportateur avant tout. On a un petit marché domestique. Alors, tu as des produits qu'on fait, entre autres l'aluminium ou le bois. Marché américain, c'est très, très important pour nous. Alors, on ne peut pas se permettre d'avoir des conséquences directes, par exemple, sur le marché d'aluminium qui représente des dizaines de milliards de dollars d'exportation.
Autre sujet, je ne sais pas si tu l'as abordé avec les producteurs laitiers du Wisconsin, l'immigration. On sait que Trump a fait une grande partie de sa campagne sur l'immigration et qu'il veut déporter un certain nombre de personnes qui sont en situation illégale aux États-Unis. Par contre, on sait quand même que les fermes laitières et la plupart des fermes aux États-Unis vivent aussi d'une main-d'œuvre illégale. Alors d'abord, est-ce que ça ne va pas nuire aux fermes même américaines de cette action-là de Trump? Puis au final, ça va les rendre moins rentables. Donc, est-ce que c'est pas un avantage vraiment pour le Canada finalement parce qu'ils vont être moins compétitifs?
Mais il y en a deux qui m'en ont parlé d'entrée de jeu, Yannick. Puis ils m'ont dit que pour eux, c'était une des raisons pourquoi ils pensaient voter Trump, l'immigration illégale, parce qu'il y a une différence à faire entre l'immigration illégale et mettons des travailleurs étrangers à statut temporaire. Et ils me disaient que, eux, pour des raisons de sécurité nationale, ils voulaient se débarrasser des travailleurs illégaux qui ont traversé la frontière. Puis pour ça, ils étaient d'accord avec le plan Trump. Les risques de sécurité étaient beaucoup trop élevés. Ils faisaient référence, entre autres, à certains meurtres, à certains cas d'agression qui ont eu lieu dans les derniers mois aux États-Unis par des immigrants illégaux. Puis ils disaient que pour ça, ils pouvaient pas se permettre d'en avoir. Ils étaient d'accord avec les travailleurs étrangers, oui, mais tu sais, qui passent à travers le processus normal. Ils mentionnaient aussi que le coût de la main-d'œuvre, par contre, était devenu un enjeu, puis le manque de main-d'œuvre, comme il se passe présentement au Québec, mais qui jugeaient que c'était une opportunité pour eux, l'automatisation de leur ferme, puis améliorer l'efficacité. Par contre, ils me citaient entre autres que les taux d'intérêt étaient vraiment élevé, puis ça rendait difficile les investissements en équipement dans leur ferme.
Ouais, mais d'où le besoin peut-être justement d'une main-d'œuvre quand même facile, qui peut être les travailleurs étrangers, mais il reste que sur les fermes américaines, même l'emploi illégal n'est pas complètement...
Non, ils m'en ont pas parlé favorablement, comme je te dis, pour des raisons de sécurité, puis je pense qu'ils valorisaient aussi le processus d'entrée, puis c'était pas... En tout cas, ils me l'ont pas dit, évidemment, s'il y en avait là, de la main-d'œuvre illégale, mais... Écoute, il y en a deux qui me l'ont abordé d'entrée de jeu, que c'était une des raisons pourquoi il votait Trump.
Puis alors, peut-être justement, encore une fois, flair politique. Trump est élu, on le voit aller depuis Mar-a-Lago faire toutes ses annonces, toutes ses nominations. Dans ta lecture de la vie politique américaine, c'est un peu inédit d'ailleurs qu'un président soit quasiment si actif avant d'être rentré avant le mois de janvier. Et est-ce que c'est quelque chose d'inhabituel? Est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, peut être freiné par les républicains ou non, parce qu'ils ont la majorité puis ils vont suivre Trump? Comment tu vois ça, toi?
C'est la question des prochaines semaines. Ça va être difficile pour lui à cause de la controverse de certaines de ses nominations. Mais tu sais, il faut comprendre que c'est pas la première fois là, qu'un président veut nommer des personnes sans nomination, sans confirmation au Sénat, par contre. Exemple, Bill Clinton en a nommé 139, W. Bush 171, Obama 32. C'était pas pour des nominations qui étaient de aussi haut niveau que l'on parle. Mm-hmm. Là, présentement, les gens qu'on dit que ça va être difficile à faire passer, il y a Matt Gaetz, son procureur général, Robert Kennedy Jr., qui serait son secrétaire à la santé, Tulsi Gabbard, à l'information, ça va être des positions qui vont être difficiles à faire passer. Ce qu'on sait présentement, c'est que Trump est actif sur le téléphone, puis qu'il y a des mécanismes, par contre, pour les faire nommer, mais ça serait de façon temporaire. Comme exemple, Vacancy Reform Act de 1988, ils pourraient l'utiliser, ils pourraient faire nommer ces gens-là de façon temporaire le temps qu'ils fassent la job qu'ils veulent qu'ils fassent, puis après ça, qu'ils s'en aillent. Mais ce qu'on sait présentement, là, puis ce qu'on voit, là, c'est qu'il y a une énorme différence entre l'administration Trump de 2016 puis elle de 2024. Elle est beaucoup plus préparée, il sait où ce qui s'en va, puis il n'est pas prêt à faire des compromis. Alors c'est là que ça va être intéressant pour la suite. Là.
Pour la suite,
comment ça va affecter le Canada.
Et pour les relations, entre autres, entre le Canada et les États-Unis, tu parlais des gens actifs sur le téléphone. J'imagine, toi, qui n'es jamais très loin du monde politique, il y a certainement du monde actif sur le téléphone aussi au Canada. dans tous les partis.
Ben oui, puis ils doivent bâtir des relations. En 2016, quand Trump a été élu, moi, je peux vous dire que les libéraux n'avaient pas bâti de relations avec l'administration, avec une potentielle administration républicaine. Bien sûr, par idéologie, mais aussi parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Trump rentre. Puis ils avaient préparé le terrain avec une possible administration Clinton, ce qui n'est jamais arrivé. Et les conservateurs ont aidé à ce manque-là pour s'assurer que le Canada puisse tirer son épingle du jeu. Ils ont bâti, il y avait déjà des relations avec certains congressmen, sénateurs, républicains, puis c'est des conservateurs qui ont facilité les relations avec le gouvernement libéral, puis l'administration Trump. Alors, dans ce cas-ci, je ne sais pas présentement qu'est-ce qui est en train de se passer. On sait que il y avait déjà des plans de contingence. Mélanie Joly parlait qu'il y avait déjà commencé à préparer le terrain. Mais on va le voir ça dans les résultats des prochaines négociations. On sait que l'accord Canada-Mexique va être en renégociation en 2026. Ça arrive très vite et il y a beaucoup de dossiers qui vont faire l'objet de négo, dont la gestion de l'œuf, évidemment.
Merci beaucoup, Marc-Olivier Fortin, pour cette participation à Parlons Ferme et à très bientôt.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Au revoir.